Laurent Maillet, vous êtes le président du Cercle Polaire. C'est un Cercle Polaire qui a été créé il y a combien de temps maintenant ?
Il a été créé il y a 5 ans et comme le nom se voulait un jeu de mots, c'est à la fois un cercle de curieux, d'amateurs, d'initiés qui s'intéressent aux régions polaires, au devenir des régions polaires, et c'est en même temps la thématique même régionale qui est définie par notre nom. Nous ne travaillons que sur les régions circonscrites par les cercles polaires.
Alors bien sûr, vous travaillez avec tous ces organismes tels que l'IPEV, Océanopolis, etc. C'est une grande communauté ?
Alors c'est un tout petit milieu. Nous connaissons toujours qui fait quoi. Pour autant, la logistique polaire est une activité particulière. Le tourisme en est une autre. Nous travaillons sur les questions qu'on appelle de gouvernance. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement veiller à renforcer ou à promouvoir de nouvelles réglementations qui permettront d'encadrer les activités qui ont lieu ou qui pourraient avoir lieu prochainement dans l'Antarctique ou dans l'Arctique, bien qu'il y ait de grandes différences entre les statuts de ces deux pôles, mais en tout cas promouvoir un renforcement des cadres réglementaires qui permettent d'assurer une protection de l'environnement et pour l'Arctique une gestion durable des ressources. Donc ce sont des bonnes volontés qui se sont associées en France, en Norvège, au Groenland et dans bien d'autres pays pour essayer de promouvoir encore une fois des solutions durables et responsables s'agissant de ces environnements majestueux, uniques et fragiles que sont les régions polaires.
Vous êtes donc un cercle international.
Nous sommes un cercle absolument international. Nous ne saurions être franco-français. L'initiative est bien française, c'est-à-dire qu'elle est partie d'un groupuscule de passionnés français. Aujourd'hui, nous avons un Norvégien, une Groenlandaise, un Américain, un Canadien, avec qui nous échangeons de façon à créer un consensus acceptable sur un ensemble de propositions que nous promeuvons dès que l'occasion se présente, ici par exemple à la Maison de la Bretagne, demain à Rovaniemi en Finlande, etc. etc.
Et cette exposition, c'est pour montrer aux visiteurs quel est l'état du cercle polaire ?
Alors, cette exposition a effectivement plusieurs visées. Ce qu'on découvre et qui me semble d'importance, c'est d'abord que l'Arctique est un milieu habité. On le décrit souvent comme un environnement menacé par le réchauffement climatique, mais ça n'est pas un univers minéral, ni seulement biologique. C'est un milieu habité depuis des millénaires par des populations autochtones qui sont environ 400 000 aujourd'hui, au-delà du cercle polaire, je veux dire, au nord de la Russie, en Alaska, au nord du Canada, au Groenland et au nord de la Norvège. Donc ces peuples autochtones, aujourd'hui nous voyons le Groenland, sont dans une transition tout à fait intéressante, à cheval si on peut dire, entre tradition et modernité. Quand vous allez à Nuuk, la capitale du Groenland, vous voyez tous les jeunes avec des téléphones portables, des survêtements Nike, et en même temps il y a toujours des traditions de chasse au phoque avec la pêche au trou. Il y a un curieux alliage de tradition et de modernité avec une volonté nouvelle d'encadrer leur développement, car ces pays se développent aujourd'hui, ce sont des PVD, ces pays se développent, ne veulent pas être encombrés par les mesures lourdes que l'Occident veut s'imposer pour ce qui concerne la réduction, par exemple, du gaz à effet de serre, mais en même temps sont désireux de retenir des voies de développement respectueuses de l'environnement. Alors ce sont des exemples à suivre, à observer, tout à fait intéressants.
Ils souffrent du réchauffement de la planète.
Alors ils sont les premiers témoins du réchauffement climatique. Il y a un élément qu'on cite très souvent, c'est que si vous prenez l'exemple du Groenland, c'est une île qui n'est peuplée que sur la périphérie et tout l'intérieur du continent est un désert de glace. Et il n'y a pas de route qui relie une ville ou un village à un autre. Autrement dit, on y va soit en bateau ou en kayak en été, soit on y va par les routes de glace qu'on aménage en hiver sur la banquise. Le réchauffement a fragilisé ce mode de communication et de transport hivernal, à savoir les routes de glace, et aujourd'hui les accidents sont très nombreux de skidoo ou de traîneau à chien qui tout d'un coup traversent la glace, tombent dans l'eau, et donc c'est le mode de communication même des Inuits, de ceux qui vivent sur la glace ou en tout cas près de la glace, qui est aujourd'hui affecté de façon très évidente par le réchauffement climatique.
Vous aimez en tout cas cette région ?
Alors c'est parti d'une passion, je dois l'avouer. D'ailleurs, nous parlons d'un syndrome polaire ou d'un virus polaire, c'est-à-dire de quelque chose qu'on contracte au contact de ces régions et qui ensuite vous rappelle, on a envie d'y retourner et puis on a envie d'aider à la préservation de ces environnements. Tous les gens qui m'entourent et tous les gens que nous croisons ici et ailleurs partagent cette espèce de virus polaire qui est un lien très fort pour cette communauté dispersée des polaires dans le monde entier.
Vous êtes un lien.
Un lien parmi d'autres, mais en effet, j'en suis un.
Merci beaucoup.
Je vous remercie, à vous.
Claudie Le Breton, vous êtes le président du Conseil général de la Bretagne, une grande région, vous avez dit tout à l'heure, plus de 4 millions d'habitants.
Pour l'instant, nous sommes un petit peu plus de 3 millions d'habitants, mais comme nous connaissons une forte croissance depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et dans les 10 à 20 ans qui viennent, on dépassera la barre des 4 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a une forte attractivité de la Bretagne, mais tout ce qui touche quelque part à la façade atlantique. Il y a véritablement un tropisme parmi la population française, d'abord celles et ceux qui habitent et qui restent, et puis véritablement une attirance de beaucoup de femmes et d'hommes, de Français d'ailleurs, qui viennent habiter chez nous.
Oui, c'est vrai que la Bretagne et la mer aussi, c'est une grande association.
Oui, la Bretagne et la mer, et puis en plus, c'est un territoire à forte identité culturelle. On a une histoire, on a aussi des traditions, la musique bretonne est connue, la danse bretonne, notre langue aussi, qui est encore parlée dans la partie ouest de la région Bretagne. Donc ça confère à ce territoire un caractère bien trempé. Il faut dire, quand on est balayé par les vents et parfois par la pluie, je veux dire, ça fait des hommes qui sont courageux, ce qui explique que ces hommes opiniâtres de tout temps ont été, pour beaucoup d'entre eux, des hommes de la mer.
Alors la Bretagne, très tournée vers la mer bien sûr, avec énormément d'activités. Vous avez déjà des pôles mer qui s'installent chez vous à Brest par exemple. Et puis aussi il y a cet axe aujourd'hui avec cette exposition à Paris qui concerne les pôles. Et ce cercle polaire qui est à Saint-Brieuc. Alors je crois que la Bretagne essaie aussi d'attirer énormément d'activités. Alors le cercle polaire par exemple, pour vous c'est un pôle important?
C'est un pôle important parce qu'on considère aujourd'hui que les océans qui occupent 70% de la planète, qui s'appelle la planète Terre, et qui aurait pu s'appeler d'ailleurs océan, bien entendu, compte tenu de la superficie, mais sont quelque part la source qui va peut-être nous permettre de relever les défis du futur, qui sont les défis de l'alimentation, de l'énergie, mais aussi quelque part du développement durable. Et il faut qu'on ait une recherche d'harmonie entre les activités de la terre et les activités de la mer. Et la Bretagne, dans ce cadre-là, avec des pôles de recherche, des pôles d'innovation, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire breton, de Brest en passant par Saint-Malo, Vannes et Lorient, voire Saint-Brieuc, eh bien nous sommes mobilisés complètement pour cette recherche en ce qui concerne la mer. Alors c'est particulièrement l'exploitation raisonnée de la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, c'est le champ hydrolien qui va s'implanter également dans la baie de Saint-Brieuc, mais c'est aussi les centres de recherche d'Ifremer qui sont à Brest avec Océanopolis et qui nous permet d'avoir une place importante en France, mais aussi, puisque les territoires sont en concurrence, au niveau européen et mondial.
Précisément, vous parliez de ce champ d'éoliennes en pleine mer qui, évidemment, émeut les marins pêcheurs, peut-être aussi certaines personnes. Et puis pour le tourisme aussi, c'est un point un peu crucial. Comment arrivez-vous à créer cette harmonie?
Il faut trouver l'adéquation entre les activités et aussi la préservation de notre environnement et la beauté des paysages. Et c'est pour cela que nous sommes en négociation pour que le champ hydrolien ne soit pas sur les activités de pêche. Donc il faudra que ce champ éolien recule à une distance qui permette d'ailleurs que l'investissement soit rentable, bien sûr, mais aussi qui préserve la ressource en matière de pêche dans ce secteur-là, parce que c'est une activité essentielle. Et en plus, c'est une activité que nous voulons développer. Et nous avons idée, nous, avec la construction de récifs, etc., de développer aussi dans cette zone de la pêche naturelle, c'est-à-dire du poisson plus nombreux pour la pêche bretonne et la pêche costa-américaine. Donc vous voyez, on peut rechercher, il faut avoir confiance, c'est pas facile, mais on peut trouver véritablement l'harmonie et la cohérence de ce que je viens de préciser précédemment.
Tout en respectant les aires marines protégées, comme on dit.
Oui, parce qu'il y a Natura 2000.
Oui. Hein,
vous savez qu'il y a le projet du parc normando-breton au niveau de l'Europe, avec est-ce qu'on va inclure les îles anglo-normandes, incontestablement le Cotentin, le nord de la Bretagne, pour faire de cet endroit une zone protégée, mais aussi une zone qui porte du développement et incontestablement le développement de ce siècle qui préserve totalement la nature, qui est le bien précieux de notre planète, si on veut que les espèces puissent continuer à vivre sur notre espace, dont on voit bien que c'est l'un des défis majeurs de ce siècle et des siècles à venir.
On peut dire vive la Bretagne.
Oui, vive la Bretagne.
Merci. Voilà. Claudie Le Breton.
C'est quelle radio ?